5.
Ousla, t'as pas intérêt à me ramener cette sale bête qui cause ici, je te le dis !
Cria Ebn Touk de derrière son comptoir. Il avait une voix haut perchée, presque une voix de femme, qui vint déchirer l'atmosphère tranquille et somnolente de la boutique comme des éclats de verre. Il pointait le doigt vers Oté qui sortait la tête du poncho de Jake. Une douzaine de clients de passage, pour la plupart des femmes vêtues simplement, se retournèrent. Deux ouvriers agricoles en chemise marron, pantalons blancs sales et zoris se tenaient près du comptoir. Ils reculèrent précipitamment comme s'ils s'attendaient à voir les deux habitants du monde de l'extérieur dégainer sur le champ et faire voler Saitouk jusqu'à Calaboot Hill.
« Désolé, monsieur, » fit Jake d'une voix douce.
Il souleva Oté de sa poche et le déposa sous le porche baigné de soleil juste devant la porte.
« Reste ici, bonhomme. »«
Oté, reste !»
répéta le bafouilleux en enroulant sa queue tire-bouchonnée autour de ses hanches. Jake rejoignit ses amis et ils se dispersèrent dans la boutique. Pour Susanna, l'odeur rappelait celle d'une autre boutique où elle était allée lors de sa visite dans le Mississippi. Les arômes mêlés de la viande salée, du cuir, des épices, du café, de la naphtaline et de la vieille causerie. À côté du comptoir se dressait un grand tonneau en bois dont le couvercle était légèrement de guingois et une paire de pinces pendait à un clou, tout près. Le baril exhalait une odeur aigre et puissante de cornichons dans la saumure.
« Pas de crédit !»
brailla Touk de la même voix stridente et exaspérante.
« J'ai jamais fait crédit à un étranger, c'est pas aujourd'hui que je vais commencer pour sûr !»« Bah vrai ! Grand merci !»
Susanna attrapa la main d'Eddie et la pressa légèrement pour le mettre en garde. Eddie se dégagea d'un geste impatient, mais lorsqu'il prit la parole, ce fut d'une voix aussi douce que celle de Jake.
« Grand merci, Saitouk, nous ne demandons pas crédit. »
Et se rappelant une tournure du père Callahan, il ajouta « Jamais de la vie. » Il y eut un murmure d'approbation parmi les clients. Plus aucun d'entre eux ne faisait même semblant de faire ses courses. Touk piqua un phare. Susanna prit de nouveau la main d'Eddie et cette fois-ci, elle accompagna son geste d'un sourire. Ils commencèrent par faire leurs courses en silence, mais bientôt plusieurs personnes, tout était présent au pavillon l'avant-veille, vinrent les saluer, timidement, et prendre de leurs nouvelles. Ils répondirent tous les trois qu'ils allaient bien. Ils trouvèrent des chemises, dont deux pour Roland, des jeans, des débardeurs, et trois paires de bottillonnes, laides mais fonctionnelles. Jake prit un paquet de bonbons qu'il choisit en le désignant du doigt, tandis que Touk le plaçait dans un sachet d'herbe tressée avec une lenteur pleine de mauvaise volonté et d'amertume. Lorsqu'il voulut acheter un sac de tabac et du papier à rouler pour Rant, Touk refusa avec un plaisir manifeste.
« Ousla, je vendrai pour l'herbe à fumer à un gosse, je l'ai jamais fait !»
« C'est une bonne mesure, » intervint Eddie. « Un pas vers l'herbe du diable, et c'est le médecin-chef qui dit grand merci. Mais à moi, vous en vendrez, n'est-ce pas, Sai ?
Notre Dean apprécie sa cigarette le soir pendant qu'il réfléchit au meilleur moyen d'aider les gens dans le besoin. » La réponse suscita quelques gloussements. La boutique avait commencé à se remplir de façon spectaculaire. Il jouait à présent devant un vrai public, ce qui n'était pas pour fâcher Eddie. Touk s'y prenait comme un connard, ce qui n'avait rien de surprenant, parce que, clairement, Touk était un connard.
« J'ai jamais vu personne danser aussi bien le Komala que lui !»
lui lança un homme dans l'une des allées, et il fut accueilli par des murmures d'approbation.
« Grand merci !» répondit Eddie. « Je lui ferai passer le message. »«
Et votre dame, elle chante bien !» dit un autre.
Susanna fit une révérence sans jupe. Elle termina ses courses à elle en repoussant un peu plus le couvercle du baril de cornichon dans lequel elle alla pêcher un énorme spécimen avec les pinces.
« Il a dû m'arriver de m'en sortir un truc aussi vert des narines autrefois, mais j'en ai aucun souvenir, » lui glissa Eddie en se penchant vers elle.
« Ne sois pas grotesque, mon cher, » répondit Susanna en affichant un sourire charmant tout le long. Eddie et Jake ne furent pas mécontents de la laisser prendre la responsabilité du marchandage, ce qu'elle fit avec délectation. Tuk essaya de son mieux de lui faire payer un supplément pour leur gna, mais Eddie eut comme l'impression que ce n'était pas dirigé spécifiquement contre eux, mais que ça faisait partie de ce qu'Eben Tuk considérait comme son travail, ou peut-être sa vocation sacrée. Il était de toute évidence assez malin pour évaluer la température de sa clientèle, car il décida de leur ficher la paix et arrêta de les harceler dès lors qu'ils eurent fini leur course. Ce qui ne l'empêcha pas de faire teinter leurs pièces sur un carré de métal spécial, apparemment destiné à ce seul usage, et de scruter les grenats de Jake à la lumière pour en rejeter un qui ressemblait à s'y méprendre aux autres pour ce que les trois pistoleros purent en juger.
« Vous allez rester combien de temps par là, les gars ?»
demanda-t-il d'une voix vaguement cordiale quand le marchandage fut achevé. Pourtant, il gardait cette lueur habile dans le regard, et Eddie fut certain que ce qu'il dirait arriverait aux oreilles d'Eisenhart, d'Overholzer et de tout ce qui comptait en ville, et ce, avant la fin du jour.
« Eh bien, ça dépendra de ce qu'on verra, » répliqua Eddie.
« Et ce qu'on verra dépendra de ce que les gens nous montreront.
Vous ne croyez pas ?»«
Si fait ?»
acquiesça Tuk, mais il avait l'air mystifié. Il devait y avoir une cinquantaine de personnes à présent dans l'épicerie spacieuse, pour la plupart des spectateurs bouche bée. On sentait comme une excitation en suspension dans l'air. Eddie aimait ça. Il ne savait pas si c'était bien ou mal, mais oui, il aimait beaucoup ça.
« Ça dépendra de ce que les gens voudront, » renchérit Susanna. « Je vais te le dire, moi, ce qu'ils veulent, la marronne !»
lança Tuk avec sa voix truffée d'éclats de verre.
« Ils veulent la paix, comme toujours. Ils veulent retrouver cette ville toujours debout quand vous quatre... »
Avec une dextérité impeccable, Susanna attrapa le pouce du type et le retourna. Jake douta que quiconque s'en soit aperçu, hormis peut-être deux ou trois Falcon au comptoir, mais le visage de Tuk vira au blanc sale et ses yeux se mirent à saillir de leurs orbites.
« Je peux tolérer ce mot dans la bouche d'un vieillard qui n'a plus toute sa tête, » dit-elle, « mais je ne le tolérerai pas dans la tienne. Appelle-moi Marronne encore une seule fois, gros lard, et je t'arrache ta langue pour te torcher le cul avec. »«
Implore, pardon !»
octa Tuk, la sueur suintant sur ses joues en grosses gouttes répugnantes.
« J'implore votre pardon, ah ça oui !»«
Bien !» fit Susanna en relâchant son doigt. « Maintenant, on va sortir et s'asseoir un peu sous votre véranda, parce que les courses, ça fatigue !»
6.
L'épicerie générale de Tuk n'était pas flanquée de gardiens du rayon, comme Roland leur avait raconté qu'il en avait vu à Mégis, mais de fauteuils à bascule alignés tout le long de la galerie couverte, au moins 2 douzaines. Et toutes les 3 marches, des pantins rappelaient les fêtes à venir. En sortant du magasin, les camis de Roland choisirent 3 fauteuils au beau milieu de la galerie. Otis se coucha joyeusement entre les pieds de Jake et parut s'endormir, la truffe posée sur les pattes. D'un revers du pouce, Eddie désigna la boutique derrière eux.
« Dommage que Detta Walker n'ait pas été là pour piquer 2 ou 3 trucs, salopard.
« Ne crois pas que je n'ai pas été tenté pour elle, » répondit Susanna.
« Il y a des gens qui viennent, » leur signala Jake. « On dirait qu'ils veulent nous parler. »«
Bien sûr que c'est ce qu'ils veulent, » répliqua Eddie. « C'est pour ça qu'on est là. » Il sourit et son beau visage devint plus beau encore. À mi-voix, il ajouta.
« Venez voir les pistoleros, les amis. Comme à Comala, le baston vous tombe dans les bras. »
« Fais-moi taire ces méchancetés, fiston, » dit Susanna, sans réussir à se retenir de rire. Ils sont dingues, ils sont dingues, se dit Jake. Mais s'ils faisaient exception à la règle, comment se faisait-il qu'il soit en train de rire lui aussi?
7. Enchik Dimani et Roland de Gilead déjeunèrent à l'ombre d'un énorme affleurement rocheux, de poulet froid et de riz enroulés dans des tortillas et arrosés de cidre doux, servis dans un broc qu'ils se repassaient l'un à l'autre. C'est Enchik qui ouvrit la palabre sur la force et l'endela, puis il se tut, ce qui convenait parfaitement à Roland. Le vieil homme avait répondu si fait à la seule question que le pistolero avait eu à poser. Le temps qu'ils finissent leur repas, le soleil était descendu derrière les hautes falaises et les escarpements. Aussi prirent-ils le chemin du retour dans l'ombre, remontant un sentier jonché de gravats et bien trop étroit pour leurs chevaux. Ils les avaient laissés dans un bosquet de trembles à feuilles jaunes, plus bas. Des myriades de petits lézards couraient devant eux, filant dans des crevasses dans la roche. Même dans l'ombre, il faisait plus chaud que dans les confins de l'enfer, là-bas. Après 2 petits kilomètres de montée, Roland se mit à souffler et se servit de son bandana pour s'éponger les joues et la gorge. Enchik, qui semblait proche des 80 ans, marchait en tête avec une sérénité et une régularité étonnantes. Il respirait avec l'aisance d'un homme qui fait une promenade de santé dans un parc. Il avait laissé sa cape dans le bosquet, accrochée à la branche d'un arbre, mais Roland ne voyait aucune trace de sueur sur sa chemise noire. Ils arrivèrent à un coude du chemin, et pendant un moment, le monde s'ouvrit à leurs pieds au nord et à l'est, dans une magnificence vaporeuse. Roland apercevait les immenses rectangles couleur taupe des pâtures et le bétail miniature. Au sud et à l'est, les champs devenaient plus verts en cascadant jusqu'au bord du fleuve. Il apercevait le village de la Kala, et même, plus loin à l'ouest, comme dans un rêve, l'orée de la grande forêt qu'ils avaient traversée pour arriver jusqu'ici. Le vent qui les saisit au détour du chemin était si froid que Roland en eut un instant le souffle coupé. Pourtant, il lui offrit son visage avec gratitude, les yeux presque fermés, respirant toutes ces odeurs qui faisaient la cala, celles du bétail, des chevaux, du grain, de l'eau du fleuve, et du riz, du riz, du riz. Enchik avait retiré son chapeau plat à large bord et se tenait lui aussi, la tête levée, les yeux mi-clos, l'incarnation de l'action de grâce silencieuse. Le vent soulevait sa longue chevelure en arrière et s'insinuait dans sa barbe, jouant avec les touffes de poils qui lui descendaient jusqu'à la taille. Ils restèrent ainsi quelques minutes, laissant la fraîcheur leur baigner le visage. Puis Enchik remit son chapeau d'un coup sec. Il se tourna vers Roland. Penses-tu que le monde périra dans le feu ou dans la glace, pistolero? Roland réfléchit quelques instants. Ni l'un ni l'autre, finit-il par répondre. Je pense qu'il finira dans les ténèbres. Tu le crois? Si fait. Ce fut au tour d'Enchik de réfléchir un instant, puis il reprit sa route. Roland avait hâte d'arriver à destination. Pourtant, il effleura de la main l'épaule du Mani. Une promesse était une promesse, surtout faite à une dame. « J'ai passé la nuit dernière chez une oublieuse, » dit Roland. « N'est-ce pas ainsi que vous nommez ceux qui ont quitté votre quatette ? » Nous parlons d'oublieux, si fait, lui répondit Enchik en le regardant avec attention. Mais pas de cas-tête. Nous connaissons ce mot, mais ce n'est pas un mot à nous, pistolero. Quoi qu'il en soit, tu as passé la nuit au Rocking Bee chez Von Eisenhart et notre fille Margaret. Et elle a lancé le plat pour toi. Si je ne t'ai pas parlé de ces choses hier soir, c'est que je les savais aussi bien que toi, et puis nous avions d'autres sujets de conversation, n'est-ce pas? Les grottes, par exemple. C'est vrai ?
Roland essaya de dissimuler sa surprise. Il dut échouer car Henchik hocha légèrement la tête, ses lèvres dessinant un sourire à peine visible dans sa barbe.
« Les manies ont des moyens de savoir, pistolero. Depuis toujours. »«
Ne voulez-vous pas m'appeler Roland ?»«
Non pas. » »«
Elle m'a dit de te dire que Margaret du clan du Sentier Rouge se débrouille très bien avec son homme impie et qu'elle ne regrette rien. »
Henchik acquiesça.
S'il ressentit la moindre douleur à cette nouvelle, il n'en montra rien, pas même dans le regard.
Elle est damnée, dit-il simplement.
Au ton de sa voix, on aurait pu croire qu'il venait de dire « Le temps devrait tourner avant midi. »
Est-ce que vous me chargez de lui dire ? Demanda Roland, à la fois amusé et frappé d'horreur.
Le bleu des yeux de Henchik avait passé, devenant aquatique avec l'âge. Pourtant, la lueur de surprise que suscita cette question s'y vit clairement. Il haussa ses sourcils broussailleux.
« Pourquoi se donner ce mal ? Elle le sait déjà. Elle aura tout loisir et tout le temps de se repentir d'avoir choisi son homme impie dans les profondeurs du Nahar. » Cela aussi, elle le sait. Viens donc, pistolero. Plus qu'un quart de roue, et nous y sommes. Mais ça monte dur.
8. Ça montait dur. Très dur, en effet. Une demi-heure plus tard, ils débouchèrent sur un rocher, bloquant presque tout le passage. Henchik le contourna sans peine, son pantalon sombre claquant au vent, la barbe volant sur le côté, assurant les prises de ses doigts aux ongles longs. Roland le suivit. Le rocher avait été chauffé par le soleil, mais le vent était si froid à présent que le pistolero en tremblait. Il sentit les talons de ses bottes en équilibre au-dessus d'un gouffre abrupt d'environ 500 mètres. Si le vieil homme décidait de le pousser, tout se terminerait très vite et de façon résolument non spectaculaire.
Pourtant, ce ne serait pas la fin, pensa-t-il. Eddie reprendrait le flambeau et les deux autres le suivraient jusqu'à la chute.
De l'autre côté du rocher, le chemin se terminait en un trou noir et déchiqueté de 3 mètres de profondeur et d'environ 1,50 m de diamètre. Un courant d'air parvint au visage de Roland. Contrairement à la brise qui avait joué avec eux alors qu'ils remontaient le chemin, cet air-là était désagréable, nauséabond, et il apporta sur ses ailes des cris que Roland ne parvint pas à identifier, mais c'étaient des cris humains.
« Est-ce que ce sont les cris de ceux du Nahar qu'on entend ? » demanda-t-il à Henchik.
Aucun sourire n'effleura les lèvres cachées du vieil homme.
« Pas de ces plaisanteries, ordonna-t-il. Pas ici, car tu te trouves en présence de l'infini. »
Roland était tout disposé à le croire. Il avança avec précaution, ses bottes crissant sur les cailloux éboulés, la main à proximité de la crosse de son arme, il la portait à gauche désormais, quand il en portait une, pour la main intacte. La laine fétide exhalée par la bouche ouverte de la grotte se fit plus intense.
Infecte, sinon toxique.
Roland plaça son bandana sur sa bouche et son nez, les tenants de sa main droite diminués. À l'intérieur de la grotte, il y avait quelque chose.
Dans l'ombre. Des ossements, oui. Des os de lézards et de petits animaux, mais autre chose aussi. Une forme qui lui était familière.
« Prends garde, pistolero, » dit Henchik, tout en se reculant pour laisser passer Roland s'il désirait entrer. « Mes désirs importent peu, » pensa ce dernier. « Il faut que je le fasse, c'est tout. Ça rend sans doute la chose plus facile. »
Dans la pénombre, la forme se fit plus nette. Il ne fut pas surpris de constater qu'il s'agissait d'une porte totalement identique à celle vue sur la plage. Pour quelle autre raison ce lieu s'appellerait-il la grotte de la porte ? Elle était en bois de fer, ou peut-être en bois fantôme, et se dressait à environ 3 mètres de l'entrée de la grotte. Elle mesurait un peu plus de 2 mètres, comme les portes de la plage, et comme elle, elle se dressait dans l'ombre, sans support, avec ses gonds qui s'articulaient sur le vide. Pourtant, elle s'ouvrira sans effort, se dit-il. Elle s'ouvrira, l'heure venue. Il n'y avait pas de serrure. Le bouton paraissait taillé dans le cristal. Dessus était gravée une rose. Sur la plage, au bord de la mer occidentale, les 3 portes étaient frappées d'un message en haut-parlé. Le prisonnier, la dame d'ombre et le pousseur. Là, il n'y avait que ces mêmes hiéroglyphes aperçus sur la boîte cachée dans l'église de Callahan. « Ça signifie « pas trouvé, dérobé », dit Roland. Henschik hocha la tête, mais lorsque Roland voulut contourner la porte, le vieil homme fit un pas en avant et tendit la main vers le pistolero. « Prends garde, ou tu découvriras par toi-même à qui sont ces voix. » Roland vit ce qu'il voulait dire. À 2 ou 3 mètres au-delà de la porte, le sol de la grotte s'affaissait à 50 ou 60 degrés. Il n'y avait rien à quoi se raccrocher, et la roche semblait aussi lisse que du verre poli. 10 mètres plus bas, les parois glissantes disparaissaient dans un abîme. Des voix mêlant leurs gémissements montaient du vide. Puis l'une d'elles devint claire, celle de Gabriel de Skane.
« Roland, non !»
hurla sa mère morte depuis les ténèbres.
« Ne tire pas, c'est moi, c'est ta... »
Mais avant qu'il pût achever, le fracas d'une déflagration la fit taire. Une douleur fulgurante vrilla le cerveau de Roland. Il appuyait le bandana sur son visage à s'en casser le nez. Il essaya de détendre les muscles de son bras, et cela lui parut impossible. Puis, des ténèbres puantes, monta la voix de son père. « Depuis que tu es tout petit, je sais que tu ne seras pas un génie, » dit Stephen Deskane d'une voix lasse. « Mais jusqu'à hier soir, je n'avais jamais cru que tu étais stupide. » Te laisser mener par lui comme une vache dans un toboggan, par les dieux. Ne t'inquiète pas, ce ne sont même pas des fantômes, ce ne sont que des échos. Voilà ce que je crois, des échos venus du fin fond de ma tête, projetés devant moi. Lorsqu'il contourna la porte, en prenant garde au gouffre à sa droite, la porte avait disparu. Il ne restait que la silhouette de Henschik. La silhouette austère d'un homme taillé dans du papier noir, se découpant à l'entrée de la grotte. La porte est toujours là, mais on ne peut la voir que d'un côté. Encore un point commun avec les autres portes.
Un tantinet dérangeant, n'est-ce pas ?
Siffla la voix de Walter dans le gosier de la grotte de la porte.
Abandonne ! Roland, mieux vaut abandonner et mourir plutôt que de découvrir que la pièce tout en haut de la tour sombre est vide.
Puis vint le son impatient du corps d'Eld qui donna la chair de poule à Roland et lui hérissa les poils du cou. L'ultime cri de guerre de Cuthbert Allgood en dévalant Jericho Hill, courant vers sa mort, se livrant aux mains des barbares à visage bleu. Roland retira le bandana de son visage et se remit en mouvement. Un pas, 2, 3. Des os craquèrent sous les talons de ses bottes. Au troisième pas, la porte réapparut, d'abord de côté, avec sa charnière mordant le vide, comme les gonds sur l'autre tranche. Il s'immobilisa une seconde, contemplant le bois épais, se délectant de l'étrangeté de cette porte, tout comme il avait savouré celle des portes de la plage. Et sur la plage, il était malade à mourir. S'il penchait légèrement la tête vers l'avant, la porte s'évanouissait. Dès qu'il la basculait un peu en arrière, elle était de nouveau là. La porte ne devenait jamais floue, ne tremblotait pas. Ou bien elle était là, ou bien elle n'était plus là. Il recula, posa les paumes à plat sur le bois de fer et s'appuya contre le panneau. Il sentit dans ses doigts une vibration faible, mais perceptible, comme l'écho d'une machine puissante. Depuis le gosier sombre de la grotte, Réa du Coeus lui hurla à sa bile, le traitant de sale gosse qui n'avait jamais vu le visage de son vrai père, lui disant que son petit bout de queue lui avait fait éclater la gorge dans les cris, tandis qu'elle se calcinait. Roland l'ignora et se saisit du bouton de porte en cristal.
« Non pas, pistolero, tu n'oseras pas !»
s'écria Enchik, alarmé.
« Si, j'ose !» répondit Blunt.
C'est ce qu'il fit, mais le bouton refusa de tourner. Le pistolero recula.
« Mais la porte était ouverte quand vous avez trouvé le prêtre » demanda-t-il à Enchik.
Ils en avaient parlé la nuit précédente, mais Blunt désirait en savoir plus.
« Si fait !» C'est Jimin et moi qui l'avons trouvé. Tu sais que nous autres, Mani, anciens, nous recherchons les autres mondes, non pas en quête d'un trésor, mais pour accroître notre savoir.
Roland hocha la tête. Il savait aussi que certains étaient revenus déments de leur voyage, et que d'autres n'étaient jamais revenus.
Ces collines ont une puissance magnétique, et elles sont reliées à une quantité d'autres mondes par une quantité de liens. Nous nous étions rendus dans une grotte près des vieilles mines de grenat, et c'est là que nous avons trouvé un message.
Quel genre de message ?
C'était une machine encastrée dans l'ouverture de la grotte. On appuyait sur un bouton et une voix se mettait à parler. C'est cette voix qui nous a dit de venir ici.
Vous connaissiez cette grotte auparavant ?
Si fait, mais avant l'arrivée du père, on l'appelait la grotte des voix, pour les raisons que tu peux comprendre désormais.
Roland acquiesça et fit signe à Enchik de poursuivre.
La voix de la machine parlait avec le même accent que tes camis, pistolero. Elle disait qu'il fallait qu'on vienne ici, Jimin et moi, et qu'on trouverait une porte et un homme et une merveille. C'est ce qu'on a fait.
Quelqu'un vous a laissé des instructions, résuma Roland d'un air pensif. Il pensait à Walter. L'homme en noir, celui qui leur avait aussi laissé les biscuits qu'Eddie appelait les Clibbers. Walter était Flagg, et Flagg était Martin, et Martin était-il Merlin, le vieux magicien solitaire de la légende ? Sur ce sujet, Roland restait circonspect.
« Et elle s'est adressée à vous en vous appelant par votre nom ?» Non pas, ce quelqu'un ne savait pas grand-chose. Il s'est contenté de nous appeler les Mani.
Comment ce quelqu'un a-t-il su où laisser la machine, d'après vous ? Les lèvres d'Enchik s'étirèrent en une mince ligne.
Qu'est-ce qui te fait penser qu'il s'agissait d'une personne ? Pourquoi pas un dieu parlant par la voix de l'homme ? Pourquoi pas un agent de l'en-delà ?
Les dieux laissent des sigles, les hommes laissent des machines. Une pause.
Pour ce que j'en ai vu, bien entendu, pas.
Enchik eut un geste brusque, comme pour lui dire de couper court à la flatterie. Est-ce que tout le monde était au courant que toi et tes amis vous exploriez la grotte où se trouvait la machine parlante ?
Enchik haussa les épaules, l'air maussade. Des gens nous ont vus, je suppose. Certains nous ont peut-être observés à la jumelle ou à la lunette, de loin. Ah, et puis, il y a l'homme mécanique. Il voit beaucoup et jacasse sans fin auprès de qui veut l'entendre.
Roland prit sa réponse pour un oui. Il en conclut que quelqu'un savait que le père Callahan arrivait et qu'il aurait besoin d'aide en arrivant aux abords de la Cala.
La porte, elle était grande ouverte ? Demanda Roland.
C'est une question pour Callahan. J'ai promis de te montrer cet endroit, c'est ce que j'ai fait. C'est sans doute suffisant pour toi.
Était-il conscient quand vous l'avez trouvé ?
Il y eut un silence réticent.
Non pas. Il marmonnait comme qu'on parle dans son sommeil, qu'on fait des mauvais rêves.
Alors il ne pourra pas me le dire. Pas cette partie.
Enchik, vous demandez assistance et secours. Cela, tu me l'as dit au nom de tous tes clans. Alors aide-moi. Aide-moi à vous aider.
Je ne vois pas en quoi ça aiderait.
Peut-être que ce ne serait en effet d'aucun secours concernant les loups qui inquiétaient tant ce vieil homme et tous ceux de Calabrian Sturgis. Mais Roland avait d'autres tracas et d'autres besoins, d'autres chats à fouetter, comme disait parfois Suzanne. Il se tint là à regarder Enchik, une main toujours sur le bouchon de cristal.
Était entr'ouverte, finit par dire Enchik. Comme la boîte, juste entr'ouverte, toutes les deux. Celui qu'ils appellent le vieux, il était allongé face contre terre, là.
Du doigt, il indiqua un point devant les bottes de Roland, sur le sol jonché de gravats et d'ossements.
Près de sa main droite, il y avait la boîte ouverte de ça.
Enchik tendit le pouce et l'index séparés de 6 ou 7 centimètres.
Et de la boîte montait le son du kamen. Je l'avais déjà entendu, mais jamais aussi fort. J'en ai eu les yeux qui brûlaient et les larmes qui jaillissaient. Jemin s'est mis à hurler et il s'est dirigé vers la porte. Le vieux avait les mains à plat sur le sol, Jemin a marché dessus, et il s'en est même pas aperçu. La boîte n'était qu'entr'ouverte, mais elle dégageait une lumière terrible. J'ai beaucoup voyagé, pistolero, dans de nombreux où et de nombreux camps. J'ai vu d'autres portes, et j'ai vu Vahadash, les trous dans le réel, mais jamais je n'ai vu de lumière comme celle-là. Elle était noire comme le vide absolu, mais avec quelque chose de rouge à l'intérieur.
L'œil, dit Roland.
Enchik lui lança un regard.
Un œil. Vrai.
Je le crois. Cette noirceur que vous avez vue, elle est diffusée par la 13e noire. Le rouge, c'était peut-être l'œil du roi cramoisi.
Qui est-il ?
Je ne sais pas, répondit Roland. Seulement qu'il demeure à l'extrême est d'ici, à Tonfoudre, voire plus loin. Je pense qu'il est peut-être un gardien de la tour sombre. Peut-être même croit-il qu'elle lui appartient.
Lorsque Roland mentionna la tour, le vieil homme se couvrit les yeux des deux mains en un geste de profonde terreur religieuse.
Que s'est-il passé ensuite, Enchik ? Dites-le-moi, je vous prie.
J'ai tendu la main vers Jemin, puis je me suis rappelé comment il avait écrasé la main de cet homme de son talon, et je me suis ravisé. Je me suis dit, Enchik, si tu fais ça, il va t'entraîner avec lui. Les yeux du vieil homme se plantèrent dans ceux de Roland. Nous voyageons. Voilà notre tâche, vous l'avez intuité, je pense. Et nous sommes rarement confrontés à la peur, car nous croyons à l'en-delà. Pourtant, j'ai eu peur de cette lumière et de ce carillon.
Il marqua une pause.
J'étais terrifié, jamais je n'ai parlé de ce jour-là.
Même pas au père Callahan ?
Henschik secoua la tête.
Il ne vous a pas parlé en se réveillant.
Il a demandé s'il était mort, je lui ai dit que s'il l'était, nous l'étions tous.
Et Jimin ?
Mort 2 jours plus tard. Henschik tapota sa chemise noire de la main. Le cœur. Combien d'années ont passé depuis le jour où vous avez trouvé Callahan ici ? Henschik secoua lentement la tête, d'avant en arrière, en un mouvement tellement commun chez les Mani qu'il devait être génétique.
Pistolero, je ne sais pas, car le temps est, oui, à la dérive, fit Roland d'un ton impatient.
Combien de temps, d'après vous ?
Plus de 5 ans, parce qu'il a son église et tous ces gens superstitieux pour la remplir, tu intuites.
Qu'avez-vous fait ? Comment avez-vous sauvé Jamin ?
Je suis tombé à genoux et j'ai refermé la boîte. C'est tout ce que j'ai trouvé. Si j'avais hésité une seule seconde, je crois que j'étais perdu car la même lumière noire en sortait. Je me suis senti tout faible et dément.
J'en suis pas surpris, dit Roland d'un air morose.
Mais j'ai fait vite. Et quand le couvercle de la boîte s'est refermé, la porte a claqué. Jimin a tambouré dessus avec les poings en hurlant et en suppliant qu'on le laisse entrer. Puis, il s'est évanoui. Je l'ai traîné hors de la grotte. Je les ai traînés tous les deux dehors. Après quelques instants à l'air frais, ils sont revenus à eux.
Henschik leva les mains puis les baissa à nouveau comme pour dire
« Et voilà ».
Roland essaya une dernière fois de faire tourner le bouton. Il ne bougea pas. Mais, avec la boule, « Rentrons, dit-il. J'aimerais être chez le père pour le dîner. Ce qui veut dire qu'il va falloir se dépêcher d'aller reprendre les chevaux, puis se dépêcher encore plus une fois là-bas. »
Henschik hocha la tête.
Sa barbe était un bon moyen de camoufler toute expression, mais Roland crut déceler du soulagement chez le vieil homme à l'idée de partir. Roland était quelque peu soulagé, lui aussi. Qui prendrait plaisir à entendre les hurlements accusateurs de ses parents morts montant des ténèbres, sans parler des cris des amis disparus ?
Qu'est devenue la machine parlante ? Demanda Roland tandis qu'il repartait.
Henschik haussa les épaules.
Badri, vous intuitez. La batterie. Les piles.
Roland acquiesça.
Tant qu'elle marchait, elle répétait toujours le même message, celui qui disait d'aller dans la grotte des voix pour y trouver un homme, une porte et une merveille. Il y avait aussi une chanson. Une fois, on l'a jouée pour le père et il a pleuré. « Faudra que tu lui poses la question parce qu'elle fait vraiment partie de l'histoire. »
Roland hocha de nouveau la tête.
« Et puis, la batterie est morte ?» fit Henschik avec un haussement d'épaule qui trahissait son mépris des machines, du monde passé ou peut-être des deux. « On l'a retiré. Il y en avait 2. Des Duracell. Tu intuites, pistolero ?» « Duracell !»
Roland secoua la tête.
« On les a apportés à Andy pour lui demander de les recharger au cas où. On les a mises en lui, mais quand elles sont sorties, elles étaient aussi inutilisables qu'avant. Andy a dit « Désolé », nous on a dit « Grand merci ». De nouveau, ce haussement d'épaule méprisant. On a ouvert la machine grâce à un autre bouton, et la langue est sortie. Elle était longue, comme ça. »
Henschik tendit devant lui ses mains distantes d'une bonne quinzaine de centimètres.
Avec deux trous et une matière grise et brillante à l'intérieur, comme de la ficelle.
Le père a dit que ça s'appelait une cassette audio.
Roland acquiesça. Je tiens à te remercier de m'avoir amené jusqu'à cette grotte, Henschik, et de m'avoir raconté tout ce que tu sais.
J'ai fait ce que j'avais à faire, répondit Henschik. Et tu tiendras ta promesse. Pas vrai?
Roland de Gilead hocha la tête. Que Dieu désigne le vainqueur.
Si fait. C'est ainsi qu'on dit. Tu parles comme si tu nous connaissais par une saison passée.
Il s'interrompit et fixa Roland avec une perspicacité un peu revêche.
Ou bien, est-ce que tu me joues simplement la comédie? Car quiconque a lu le bon livre pourrait me donner du Dieu et des ténèbres jusqu'à ce que les corneilles rentrent au bercail.
Me demandes-tu si je joue les flagorneurs ici, où il n'y a personne pour entendre, à part nous? D'un mouvement de la tête, Roland désigna le gouffre au murmure.
Tu sais bien que non,
je l'espère. Ou alors, c'est que tu es un sot.
Le vieil homme considéra cette remarque, puis tendit sa main aux longs doigts noueux.
Grand bien, Roland. C'est un beau nom, un nom de juste.
Roland tendit la main droite. Et quand le vieil homme la prit dans la sienne et la serra, il ressentit pour la première fois le pincement aigu de la douleur, là où il la redoutait le plus.
Non, pas encore. C'est dans l'autre que je la redoute le plus, celle toujours intacte. Peut-être bien que les loups vont nous tuer tous cette fois-ci, fit Henschik.
Peut-être, oui.
Et pourtant, c'est peut-être une heureuse rencontre que la nôtre.
Peut-être, répondit le pistolero.